Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Nous sommes à la veille de la COP21 qui va réunir les dirigeants du monde entier au Bourget près de Paris. Pendant 10 jours, le monde va débattre des moyens de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et essayer de mobiliser les financements nécessaires pour y parvenir. Le climat, c'est donc une affaire de gros sous et c'est pour cela, naturellement, qu'Écho d'ici, Écho d'ailleurs s'empare aujourd'hui de ce dossier avec beaucoup de questions. D'abord, le réchauffement climatique actuel a-t-il un coût économique ? Ensuite, lutter contre le réchauffement climatique, est-ce que cela coûte de l'argent ou est-ce que cela en rapporte ? Est-ce qu'il y a un nouveau modèle de croissance, ce qu'on appelle la croissance verte ? Et est-ce que tout le monde, riche ou pauvre, pays développé ou émergent, est logé à la même enseigne face à ces phénomènes ? Voilà les questions que je vais poser aux 3 invités que je vous présente maintenant. Bonjour Laurent Vigneault.
Bonjour.
Laurent Vigneault, vous êtes directeur de l'innovation au sein d'un groupe d'ingénierie qui s'appelle Artelia. C'est un bureau d'études implanté aux 4 coins de la planète. Sur son site internet, Artelia se présente comme très engagé pour le climat. Il y a même un compte à rebours jusqu'au démarrage de la COP21. Pourquoi cet engagement écologique ?
Alors l'engagement d'Artelia, qui est une des premières sociétés d'ingénierie française, en fait, il est historique, puisque Artelia est une très vieille société qui date des années 20 pour sa partie hydraulique, on va dire, et qui dès le début, en fin de compte, a placé ce qu'on appelait à l'époque l'environnement comme axe de développement à travers une compréhension mondiale, très axée d'ailleurs sur le continent africain en particulier.
Avec nous également Éloi Laurent, bonjour.
Bonjour.
Éloi Laurent, vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français de la conjoncture économique. Vous enseignez aussi à Sciences Po Paris et à l'Université américaine de Stanford. Vous venez de co-signer avec Philippe Pochet un petit livre intitulé « Pour une transition sociale écologique ». Sous-titre « Quelle solidarité face aux défis environnementaux ?» et c'est aux éditions Les Petits Matins. Qu'est-ce que c'est qu'une transition sociale écologique ?
C'est une transition dans laquelle on considère que les crises écologiques sont des questions sociales. C'est une transition dans laquelle on considère que la transition écologique, c'est-à-dire le respect des grands équilibres de la biosphère, ne sera possible au XXIe siècle que si on considère que ce sont des questions sociales qui sont en jeu, c'est-à-dire que si on traduit chaque crise écologique, changement climatique, biodiversité, écosystème, en problèmes sociaux et je dirais quotidiens pour les gens. Et donc on ne raisonne pas à partir de grandes abstractions, comme par exemple la croissance, la finance, ces choses-là, mais le quotidien, c'est-à-dire la santé. L'écologie, c'est quelque chose qui vous accompagne tous les jours, du moment où vous vous levez jusqu'au moment où vous vous couchez, et c'est en intéressant socialement les citoyens à la question de l'écologie qu'on arrivera à faire la transition.
Alors avec nous également Lucas Chancel. Bonjour Lucas Chancel.
Bonjour.
Lucas Chancel, vous êtes chercheur à l'École d'économie de Paris. Par le passé, vous avez travaillé en Inde et en Allemagne, et vos thèmes de recherche portent sur les interactions entre inégalités sociales, économiques et environnementales. Vous venez de publier avec le célèbre Thomas Piketty une étude intitulée « Inégalités et CO2, comment financer l'adaptation de manière équitable ». C'est édité sous l'égide de l'École d'économie de Paris, donc où vous travaillez. Le CO2, c'est le carbone. En quoi le carbone a-t-il quelque chose à voir avec les inégalités, Lucas Chancel ?
Eh bien, historiquement, on a traité cette question du carbone et des inégalités comme quelque chose, une lutte entre pays, donc des pays qui affrontent d'autres pays. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, il y a des inégalités entre individus. Donc, à l'intérieur des pays, il y a des inégalités économiques qui se traduisent en inégalités d'impact en matière climatique.
C'est le Nord contre le Sud ?
Alors, c'est pas que le Nord contre le Sud, en fait. Dans les pays en développement, dans les pays émergents, on a aussi des classes moyennes, des classes aisées qui émettent et qui commencent à émettre des niveaux d'émissions qui sont proches de ceux qu'on peut retrouver en Europe ou aux États-Unis.
Alors, au cours de cette émission, nous avons rendez-vous avec le réseau de correspondants des RFI. 3 reportages seront diffusés, l'un d'Éric Sanson de retour de Floride, le deuxième de Sébastien Farcy à New Delhi et le dernier de François Humfer-Kataji au Caire. Question que je vous pose d'abord à vous, Éloi Laurent. Dans quelle mesure le réchauffement climatique auquel on assiste en ce moment pose-t-il un problème économique ?
Il pose un problème économique évident puisque nous avons un certain nombre de zones géographiques qui vont être très fortement impactées, les zones côtières. Si on pense à l'impact de la canicule, par exemple, dans un pays comme la France, qui est un pays développé, qui a un système de santé très important, il y a eu 3500 morts dans une indifférence quasi générale cet été du fait des épisodes de canicule que nous avons eus. Si on pense, comme le GIEC, que les canicules vont être à la fois plus fréquentes et plus intenses au cours des prochaines années, ça pose des problèmes évidents pour les pays les plus vulnérables et les plus pauvres, mais aussi les pays riches. Et c'est un problème économique. Mais simplement, là où on a tort, c'est de penser que ça n'est qu'un problème économique, ou plus exactement que c'est un problème qu'il faudrait se soucier du changement climatique parce que ça coûterait des points de croissance. C'est un problème de justice sociale. La question fondamentale du changement climatique, c'est la justice. C'est pas l'efficacité économique. Et donc, je crois qu'on se trompe complètement en pensant qu'il faut faire de l'argument central de la COP21 le gain économique qu'on pourra tirer de la lutte contre le changement climatique. Et on voit des études qui nous parlent du fait qu'on pourrait gagner 0,35 points de PIB à horizon 10 ans en produit intérieur brut en luttant contre le changement climatique. Je pense que cet argument est complètement contre-productif parce que ça donne l'idée fondamentalement aux gens que le changement climatique devient un business, que la question fondamentale c'est faire du business et de la croissance avec le changement climatique. On est dans un monde ravagé par les inégalités dans lequel précisément la croissance est de moins en moins équitablement partagée. Donc il faut revenir à l'essentiel qui est la question de la justice sociale. Et pour moi, la clé à la fois des négociations climatiques entre pays, c'est l'équité dans la répartition du fardeau de ce qu'il reste à émettre jusqu'à 2050 pour ne pas dépasser des limites insoutenables. Donc c'est ça la question fondamentale. L'équité dans la répartition des financements pour l'adaptation et l'articulation entre le changement climatique et l'enjeu des inégalités sociales dans tous les pays. C'est-à-dire le lien entre santé, inégalité et climat. C'est ça la trame fondamentale de la COP21 pour moi.
Laurent Vigneault et Éloi Laurent viennent dire que la lutte contre le réchauffement climatique, ça ne devait pas être un business, mais pour vous, ça l'est, pour votre entreprise Artelia.
Oui, en fait, moi je pense que effectivement, c'est plutôt le mot lutte qui est un petit peu qu'il faut peut-être prendre avec des précautions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le changement climatique, il est pris de deux côtés. D'une part, ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire essayer de d'émettre moins de CO2 pour les usages quotidiens. Et puis ensuite, l'adaptation, c'est-à-dire si le changement climatique a des impacts sur notre vie, comment est-ce qu'on va s'adapter? Et dans les deux cas, en fin de compte, je suis entièrement d'accord sur l'idée que c'est l'individu qui doit prendre en charge au niveau de sa plus petite cellule toutes ces considérations. Mais nous, ce qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui, c'est l'imbrication des échelles. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait en sorte qu'une somme de petites actions de chaque individu, en fin de compte, retrouve une cohérence aux échelles supérieures? Et quand on sait que dans l'évolution de l'humanité, on est aujourd'hui à une charnière où plus de la moitié des habitants de la planète vivent en ville, que ces villes, en fait, en superficie, ne représentent que 2% de la planète, mais qu'elles émettent 80% des émissions de gaz à effet de serre, on voit en fin de compte que la technicité de la ville devient un vrai sujet, la technicité technique mais sociale également, de façon à ce qu'on arrive sur ces territoires très complexe aujourd'hui, à mieux gérer en fin de compte les consommations et les rejets pour aller vers ce fameux objectif de la COP21.
Lucas Chancel, où est-ce que vous vous situez dans ce débat? Est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique ou l'atténuation, comme le dit Laurent Vigneault, ça ne doit pas être un business ou est-ce que ça l'est aussi?
Écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Éloi Laurent sur la nécessité de passer d'un discours ou d'un récit technique sur les questions environnementales ou d'experts à des questions de justice sociale, d'équité, d'inégalité. Cela dit, je pense que c'est important quand même de rappeler que cette question du climat ou de lutte contre le changement climatique, c'est aussi un récit positif. C'est aussi des investissements pour l'avenir. C'est aussi de nouveaux emplois, c'est de nouvelles filières, c'est de nouvelles manières de produire les choses, de consommer. Donc tout ça, c'est très positif pour tout un nombre de nouvelles entreprises, de nouvelles industries qui peuvent se mettre dans ce secteur. Cela dit, on peut en fait décider d'aller vers ce monde qui réduira ses émissions de carbone de différentes manières. Et on peut le faire comme par exemple le font les Allemands, c'est-à-dire qu'en Allemagne, 50% des nouvelles installations en énergie renouvelable sont faites par des individus et des coopératives. pas par des grands groupes. Ça, c'est très important parce que ça montre que concrètement, on rapproche ces questions, donc très techniques, à ce que font les individus, les ménages, à leurs choix au quotidien. Et donc, c'est important de se poser la question, comment est-ce qu'on va dans cette transition? Est-ce qu'on prend en compte cette question des inégalités? Ou est-ce que on la prend pas en compte? Et on peut aussi mener des politiques environnementales qui sont pas forcément équitables. Et donc, il y a cette question à se poser. Et on a des outils, on sait comment faire pour avoir une transition à la fois équitable et qui pense au long terme. Et c'est vers ça qu'il faut aller.
Alors, on va aller tout de suite vers un pays où la transition semble ne pas se faire dans de très bonnes conditions. C'est un pays important, l'Égypte. Le réchauffement climatique a des conséquences sur la ressource aquatique de ce pays. Moins de pluie, donc moins d'eau douce, et parallèlement la montée du niveau de la mer, deux facteurs très nocifs pour l'agriculture comme pour le tourisme, qui sont des secteurs clés de l'économie égyptienne. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé François Hume Ferkataji au Caire.
Avec l'agrandissement du canal de Suez ou la création d'une nouvelle capitale administrative, l'un des grands projets nationaux du président Abdel Fattah el-Sissi est d'aménager 700 000 nouveaux hectares de terres cultivables en Égypte, un projet ambitieux dont la mise en œuvre pourrait toutefois connaître de sérieuses difficultés compte tenu du réchauffement climatique. Mohamed Abdel Wahab, professeur de climatologie à l'université du Caire, rappelle que les dérèglements climatiques se sont multipliés ces dernières années et particulièrement cet automne où les inondations à Alexandrie et dans ses environs ont causé la mort de 25 personnes.
Nous avons des inondations et des périodes de canicule et dans le même temps un manque criant de précipitations. Il y a moins de pluie qu'auparavant. Et ce manque d'eau va vraiment avoir des conséquences tragiques sur l'agriculture. Nous avons déjà des problèmes de ressources en eau. 95% de nos ressources proviennent de l'étranger. Lors de nos dernières recherches, nous avons réalisé qu'il y a une chute de la production agricole en raison du changement climatique. Par exemple, la production de blé a déjà chuté de 8 à 13% à cause de l'augmentation de 1,5 degré de la température.
Un risque pour la sécurité alimentaire du pays, mais aussi directement pour les populations. 1400 km de côtes sont menacées en Égypte. Amira Sharef, spécialiste environnementale au Centre égyptien pour les droits économiques et sociaux.
Les prévisions montrent qu'avec une montée du niveau de la mer d'1,5 mètre, nous perdons la totalité de la ville d'Alexandrie. Nous perdons la totalité de la ville d'Ismaïlia. Nous perdons la ville de Port Saïd. Nous perdons énormément de terres cultivables dans le delta.
Le tourisme, l'une des principales mannes économiques du pays, est lui aussi menacé. Avec le réchauffement climatique, l'écosystème splendide des profondeurs de la mer Rouge est en danger. Le professeur Abdel Wahab alerte également sur le niveau de puissance des ultraviolets qui, à l'avenir, viendront gâcher la fête des touristes de Sharm el-Sheikh et d'Ourgada.
À ce jour, nous avons presque atteint la limite maximum. J'ai très peur que nous la dépassions. Et si ce niveau augmente, ce sera très très inquiétant pour le futur du tourisme à Sharm el-Sheikh et Ourgada.
Le climat politique toujours tendu en Égypte ne laisse aucune place à la question environnementale. Les médias s'en désintéressent et le pouvoir politique communique très peu à ce sujet. Avant la COP21, l'Égypte a tout de même rendu le fameux document de sa contribution nationale. Aucun chiffre précis n'est donné sur son intention de réduire les gaz à effet de serre. Le pays demande cependant 73 millions de dollars à la communauté internationale pour s'adapter et faire face au changement climatique.
Alors c'était un reportage signé François Hume Ferkataji au Caire. C'est un scénario très noir qu'il dessine en pointillé pour l'économie égyptienne, mais au-delà de l'économie, pour l'Égypte tout entière, Éloi Laurent.
Oui, enfin on voit bien deux choses dans ce reportage. La première chose, c'est la nécessité de passer de l'idée du réchauffement climatique à l'idée du dérèglement climatique. C'est pas seulement un réchauffement, c'est-à-dire que c'est un dérèglement au sens où tout d'un coup, on n'a pas de précipitation quand on devrait en avoir, on en a trop quand on n'en attendait pas du tout. Donc c'est pas seulement que, à la limite, si c'était linéaire et simplement un réchauffement. Je ne dis pas que ce serait simple ou mieux, mais à la limite, ce serait un petit peu plus gérable. Le gros problème, c'est l'imprévisibilité climatique. C'est-à-dire, c'est pour ça que le fait de parler de changement climatique ou de dérèglement climatique est plus adapté que simplement réchauffement. On voit ça donc
ou
très
mutation.
Bien. Oui, ou mutation, sauf que mutation ça, ou métamorphose, ça donne l'idée que c'est finalement, ça peut être positif, ce qui est aussi un argument du climato-scepticisme, qui est de dire, oh, il y aura des mutations, mais finalement, elles vont être positives, et pourquoi ne pas penser que les effets positifs l'emporteront sur les effets négatifs? Non, c'est un dérèglement au sens où les effets négatifs l'emportent très largement sur les effets positifs, et on voit ça. Et en même temps, ce qu'on voit, et ce qui est inquiétant, c'est que cette réalité qui est de plus en plus tangible, on pensait que ce serait pour les générations futures. En fait, c'est pour la nôtre. Ça va être pour maintenant. Les effets de 2015 est en un sens une espèce de folie climatique. Ce qu'on voit à la surface de la planète pour l'année 2015 est absolument incroyable partout. Le mois de novembre qu'on a eu en France, mais pas seulement. Partout, vous avez des signes. Et 2014 était déjà une montée en puissance. Donc ça va arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Et le problème qu'on perçoit dans le reportage, c'est qu'il y a un débat court terme, long terme, que n'arrivent pas à bien gérer les gouvernements. C'est-à-dire que, alors que les citoyens perçoivent dans le court terme de plus en plus les effets, on pense que les questions environnementales, c'est le long terme. Donc, laissons les questions de court terme comme la sécurité, la croissance, etc., l'emporter. À court terme, on s'en occupera plus tard. Non, c'est maintenant, c'est tout de suite, parce qu'en fait, les effets sont perceptibles dès maintenant.
Laurent Vigneault, vous connaissez bien l'Égypte, vous me l'avez dit pendant qu'on préparait cette émission. Ces villes qui sont menacées de disparition, Alexandrie, Port Saïd, vous y croyez vraiment? C'est quelque chose que vous appréhendez, vous? Vous parliez tout à l'heure des villes?
Ah oui, tout à fait. Effectivement, alors on connaît bien l'Égypte. En particulier, on a piloté la construction du métro du Caire, il y a 25 ans, chez Artelia. Et déjà, à l'époque, on avait remarqué un phénomène social très intéressant, c'est que c'est une ville qui croît tellement vite qu'en fin de compte, de tirer des réseaux d'eau en dehors de la ville avait plus d'impact sur l'endroit où habitaient les gens, où s'installaient les gens, que le métro. Donc on voit que on est dans des pays extrêmement stressés par l'accès à la ressource hydraulique. Ça, c'est pour le côté terre, si vous voulez. Et quand on entendait dans le reportage qu'il y a 700 000 hectares, donc qui devraient être à nouveau irrigués dans ce pays-là, il y a toujours ce lien très important à faire entre l'agriculture, la ville et le littoral, qui est vraiment indissociable. Et ce lien, nous, en tant qu'ingénierie très généraliste, on le modélise de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'on arrive à recréer en fait tous ces liens qu'il peut y avoir, par exemple par rapport à une goutte d'eau, sur la façon dont elle va voyager.
Mais comment est-ce que ça aide à lutter contre ce que Éloi Laurent appelle le dérèglement climatique?
Aujourd'hui, d'abord, on augmente notre connaissance en fait des impacts de ce changement climatique. Et je confirme qu'effectivement, on est un peu dans une situation un peu schizophrénique, puisque la majorité des nouvelles implantations urbaines dans le monde se font à moins d'un mètre de haut.
Donc au-dessus du niveau de la mer.
Au-dessus du niveau de la mer. Donc on a aujourd'hui 800 millions à peu près d'habitants dans le monde à moins de 10 mètres de haut. Donc ces gens-là vont être forcément impactés. Donc on a ici toute l'ingénierie littorale qui se met en route. En France, c'est très clair, on a eu l'épisode de Xynthia, qui est pas rien. Et puis donc aujourd'hui, on réfléchit, nous on a couplé, justement, on l'entendait bien dans le reportage, à notre analyse de la ville, une compétence sur son économie touristique, qui nous semble vraiment importante, puisqu'en plus c'est un sujet sur lequel la France est quand même leader mondial. Et donc on est en train de réfléchir, par exemple aujourd'hui, au recul des stations balnéaires du littoral aquitain vers la terre, parce qu'on sait très bien que ces stations littorales vont être très impactées dans les décennies qui viennent.
Lucas Chancel, qui est-ce qui souffre le plus de ces situations? Ce sont les gens des villes ou sont les gens des campagnes? Parce qu'il y a les deux phénomènes. Qui est-ce qui est le plus affecté?
Alors, juste une chose, je pense que c'est très important de mettre en avant que les pays en développement sont en première ligne des effets du changement climatique. Cela dit, il ne faut pas oublier que les pays développés le sont aussi. Et c'est important de remettre ça en avant pour encourager également les pays développés à faire des efforts d'atténuation pour limiter les conséquences futures. À l'intérieur des pays en développement, ça va dépendre qui des villes ou des campagnes sont plus impactées par les effets. Ça va dépendre des régions, ça va dépendre des zones. Donc on peut pas avoir de réponse générale sur le sujet. Mais ça nous amène à la question du financement de l'adaptation. Et ça nous amène aussi à la question des pertes et des dommages. Jusqu'à présent, dans le cadre des négociations climatiques, on parlait essentiellement d'adaptation, comme s'il n'y avait pas de pertes et de dommages irréductibles. Et aujourd'hui, on introduit dans le débat cette question de pertes et de dommages qui ne pourront de toute façon pas être évités.
Alors nous continuerons ce débat, cette conversation dans quelques minutes après un flash d'actualité, puisque nous sommes déjà à la fin de la première partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sur RFI. Écho d'ici, Éco d'ailleurs. Jean-Pierre Boris.
Bienvenue dans cette deuxième partie d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, une émission à la veille de l'ouverture de la COP21, la grande négociation internationale sur le climat à laquelle participeront 140 chefs d'État et de gouvernement. Dans cette émission, nous nous demandons donc quel est le lien entre le fonctionnement de l'économie mondiale et le réchauffement climatique, quel est l'impact économique et social de ce réchauffement et de la lutte contre ce que Éloi Laurent vous appeliez ce dérèglement. Trois invités, les économistes Éloi Laurent de Sciences Po Paris et de Stanford aux États-Unis, Lucas Chancel de l'École d'économie de Paris et Laurent Vigneault, directeur de l'innovation au sein du groupe d'ingénierie Artelia. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons commencé à voir que le réchauffement climatique, par son impact économique et social, nuisait aux plus pauvres. Au Niger, le réchauffement climatique affecte la production agricole. Écoutez ce qu'en dit Halima Lawal Bachir, une jeune journaliste nigérienne de la région de Zinder, qui va participer à cette COP21 et que j'ai rencontrée dans les locaux de l'UNICEF.
Ça se manifeste par des catastrophes naturelles, l'avancée imminente du désert, les inondations, la sécheresse. Ça a des graves conséquences économiques. Les récoltes sont menacées parce que les pluies se font rares, par exemple, et quand elles arrivent avec une grande force, elles détruisent toutes les cultures. Du coup, cela engendre beaucoup de problèmes et des situations non confortables aux familles, notamment aux jeunes qui sont obligés de se déplacer, de quitter à la recherche d'un emploi, par exemple. On a ce problème d'emploi au Niger qui est lié au changement climatique. Mais on a aussi d'autres perspectives, je pense, qu'il faut qu'on explore pour arriver à tenir, pour arriver à contourner ce problème. Le Niger s'adapte au changement climatique, il l'a toujours fait. Mais ça va devenir de plus en plus dur pour les prochaines années, parce que la population est grandissante. On est 19 millions en ce moment. En 2050, il est prédit qu'on serait 72 millions. Donc comment on va tenir face à ce changement climatique ? Et en plus, les jeunes sans perspective d'emploi, on a un grave problème là à gérer.
C'était donc Halima Lawal Bachir, une jeune journaliste nigérienne. La COP21 veut drainer 100 milliards de dollars pour lutter contre le réchauffement climatique, essentiellement pour les pays en développement, donc pour aider les plus pauvres. Est-ce que c'est une bonne manière de lutter contre ces inégalités entre pays riches et pays pauvres, Éloi Laurent ?
Oui, enfin, c'est plus exactement une manière de compenser la responsabilité prépondérante des pays riches qui sont devenus riches, notamment par les énergies fossiles, dans le changement climatique, parce que le CO2 est persistant presque un siècle dans l'atmosphère. Donc, la concentration des gaz à effet de serre aujourd'hui est fonction des émissions qui ont été faites depuis un siècle. Et depuis un siècle, on sait que même si la Chine est devenue, depuis 2007, le premier émetteur mondial, depuis un siècle, en réalité, c'est toujours les États-Unis qui sont, et de loin, le premier émetteur, et y compris les pays européens, etc. Donc, c'est justifié que les pays développés aient les pays en développement. Mais on entendait deux choses distinctes et intéressantes dans ce reportage. La première chose, c'était la notion de catastrophe naturelle. Je pense qu'une des caractéristiques de notre monde, c'est qu'il n'y a plus de catastrophe naturelle. Ce qu'il y a, ce sont des risques naturels. Mais quand un risque naturel se réalise aujourd'hui, il se réalise selon des modalités sociales. Ce que nous avons...
Pourtant, les catastrophes naturelles, on en voit tous les jours.
Non, ce ne sont pas des catastrophes naturelles. Ce sont des réalisations de risques naturels. Et ça n'a rien de naturel, c'est de moins en moins naturel dans les causes et ça n'est jamais naturel dans les conséquences. C'est de moins en moins naturel dans les causes parce que ce que nous avons, c'est-à-dire inondations, canicules, sécheresses, etc., sont le fait du dérèglement climatique qui est lui-même le fait de la responsabilité humaine. Donc dans les causes, c'est de moins en moins naturel. Et dans les conséquences, ça n'est jamais naturel. La différence d'impact entre un tremblement de terre au Japon, un tremblement de terre en Haïti, vous donne une idée de ce que veut dire être prêt ou n'être pas prêt, être adapté ou n'être pas adapté. Donc la grande chose à comprendre, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel les catastrophes sont des catastrophes sociales écologiques. Et il faut les penser comme telles, et il faut les penser comme des questions sociales. Ça, c'est la première chose qu'on entendait. La deuxième chose qu'on entendait, c'est effectivement l'explosion démographique qui était un sujet plutôt réjouissant ou en tout cas une bonne nouvelle il y a quelques années parce qu'on se disait qu'on allait vers une décroissance de la population mondiale en 2050. Les dernières révisions de la division population des Nations Unies, malheureusement, ont touché tout le monde. On va en fait vers une croissance démographique. Il n'y aura pas de décroissance de la population mondiale en 2050. On va vers 11 milliards d'habitants. Et effectivement, c'est essentiellement en Afrique et en Asie qu'on aura cette progression de la démographie. Et ça veut dire que la population mondiale va faire peser une pression considérable sur les écosystèmes et qu'on a bien une question démographique dans la question écologique.
Ça veut dire plus de pauvreté, Lucas Chancel, dans ces pays-là ?
Ça veut dire effectivement que si on ne prend pas en compte les effets du changement climatique, enfin, si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre, la pauvreté va s'accroître dans ces pays. Je voulais juste revenir sur un point, sur cette question du financement. Et comment on fait, en fait, pour atteindre les 100 milliards prévus par la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique et les dépasser? Parce que ce que prévoient les négociations climatiques, c'est 100 milliards. 50 milliards sur l'atténuation, réduire nos émissions, et 50 milliards sur l'adaptation. Donc, développer des sociétés résilientes face au choc. Selon l'ONU, il faudrait, au bas mot, 150 milliards d'euros sur l'adaptation, uniquement. Nous, ce qu'on dit dans notre étude récemment publiée avec Thomas Piketty, c'est que pour accroître ce volume de financement, il faut réaliser, prendre en compte le fait que les émetteurs sont partout. Les grands émetteurs sont partout. Cela dit, cela dit, le fait de dire qu'il y en a en Chine, qu'il y en a en Afrique du Sud, qu'il y en a au Brésil, qu'il y en a en Inde, ça doit en aucun cas dédouaner les Européens et les Américains qui restent, comme vient de le dire Laurent, les premiers responsables en termes de volume global de la responsabilité. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que si on doit demander aux Européens, aux Américains d'accroître leur effort financier, eh bien, ça peut être légitime de leur montrer que les Chinois, les Indiens, les Sud-Africains, les Brésiliens vont aussi contribuer. Mais ça ne peut pas dédouaner Européens et Américains. Juste pour donner un ordre de grandeur, les Européens contribuent aujourd'hui à hauteur de 4 milliards d'euros par an pour aider les pays en développement à s'adapter au changement climatique. Il faut qu'ils augmentent leur contribution d'au moins 4 fois. Et les Américains devraient augmenter leur volume de contribution d'au moins 15 fois.
Laurent Vigneault, quand vous entendez ces chiffres-là, vous devez saliver en vous disant « c'est bon pour nous, c'est bon pour les affaires ».
Oui, alors nous, on aime bien les chiffres, mais du coup, on s'en méfie toujours énormément. D'abord, la croissance démographique, elle est principalement due à l'allongement de la durée de la vie. Ce qui veut dire que si tous ces gens qui vont peupler la planète ont une conscience accrue de leur responsabilité par rapport au réchauffement climatique et à l'environnement, ils vont l'avoir plus longtemps. Donc ils vont peut-être pouvoir la travailler différemment. Et puis il y avait aussi un message important d'espoir dans le reportage qu'a dit cette jeune personne, enfin je ne sais pas si elle est jeune, cette personne du Niger, c'est qu'elle disait le pays s'est toujours adapté, il l'a toujours fait.
Oui, mais elle disait aussi on n'arrivera plus à le faire.
Alors elle disait on est un peu douché par cette croissance démographique effectivement qui nous attend. Donc pour en revenir aux 100 milliards, bon effectivement c'est un objectif très très intéressant, mais je pense qu'on sera tous d'accord autour de cette table, 100 milliards ça ne peut donner que des impulsions qui après doivent être relayées effectivement par l'instauration de cette nouvelle culture individuelle organisée au niveau de tous les États sur cette responsabilité globale.
Alors mais ça me sidère un peu que vous parliez de responsabilité individuelle, parce que l'industriel que vous êtes, il travaille avec des États, il travaille avec des grandes entreprises. Où est l'individu dans votre travail à vous ?
Alors justement, c'est là où c'est très intéressant, parce que nous, en France, on a toujours eu, depuis, on va dire, le début de la révolution industrielle, une vision très très technique de la croissance, de l'aménagement du territoire, etc. Et on s'aperçoit que, effectivement, on est à la limite un petit peu de tous ces sujets-là. Donc aujourd'hui, on regarde vers d'autres pays, et je pense que l'Afrique est un terrain merveilleux, parce qu'on voit se développer aujourd'hui en Afrique des formes de co-construction, de nouvelles façons d'habiter, de consommer, d'émettre, de bouger, aidé de façon très importante par le numérique, qui est avalé, on va dire, en Afrique beaucoup plus vite qu'en Europe. Et donc, on observe avec beaucoup d'envie, en fin de compte, tous ces sujets-là. Et je pense que le métier de l'ingénierie a totalement muté, puisqu'aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps sur le diagnostic, sur la compréhension, en fait, de ces nouveaux phénomènes, y compris sociaux, économiques, etc., pour trouver ensuite des organisations, des réponses à l'échelle des États, des pays et des agglomérations.
Alors un exemple des investissements faits pour lutter contre le réchauffement climatique, pour enrayer la production de carbone, en voilà un. En Inde, plus des deux tiers de l'électricité est aujourd'hui produite à partir du charbon, l'énergie la moins chère. Pour réduire cette dépendance qui est polluante, tout en augmentant ses capacités de production électrique, le gouvernement indien a prévu une vraie révolution solaire et a comme objectif de multiplier par 25 la production photovoltaïque qui pourrait alors s'élever à 100 gigawatts en 2022. La course à l'énergie solaire en Inde, c'est un reportage Éco d'ici Éco d'ailleurs signé Sébastien Farcy à New Delhi.
La compagnie française Solaire Direct a remporté en février dernier l'appel d'offres pour la génération de 49 MW d'énergie solaire sur deux sites différents du Pendjab, une région agricole du nord de l'Inde où les terres sont difficiles à acheter, comme l'explique Gaurav Sood, directeur de Solaire Direct en Inde.
L'acquisition des terres nous prend beaucoup de temps, entre 7 et 8 mois, alors que nous devons livrer le projet en moins d'un an. Pendant ce temps d'attente, nous ne pouvons pas lever des fonds. Et cela nous oblige à acheter l'équipement à la dernière minute, ce qui reviendra plus cher.
Le gouvernement essaye de lever ces obstacles. Il a ainsi créé des parcs solaires où seront générés 15 gigawatts d'électricité d'ici à 2019. Dans ces structures, la terre ainsi que les lignes de transmission sont fournies par l'État, ce qui est très attrayant pour les investisseurs. Le contrat pour le premier parc a été attribué début novembre selon un système d'enchères inversées. C'est l'américain Sun Edison qui a remporté les 500 MW disponibles, promettant un prix de vente de 4,63 roupies par kilowattheure, soit environ 6,5 centimes d'euros. Le prix le plus bas jamais annoncé en Inde pour du solaire. Cette baisse soudaine inquiète cependant les observateurs comme Vinay Rustagi, le directeur de la société de conseil en énergie renouvelable Bridge to India.
Il y a deux raisons à une chute des prix si rapide en Inde. D'abord, la croissance mondiale du secteur entraîne la baisse du prix de l'équipement de 5 à 10% par an. Ensuite, les entreprises ont fait des offres à des prix qui ont chuté de plus de 20% depuis un an. Et cela peut seulement être expliqué par l'excitation actuelle autour de cet énorme marché. Plus de 50 entreprises sont en compétition en Inde et elles cassent les prix pour obtenir des contrats. Je pense qu'elles prennent trop de risques et qu'il faudra voir si tous ces projets vont vraiment voir le jour.
Sun Edison, très endetté après avoir acheté pour 5,6 milliards d'euros d'actifs en un an, a en effet annoncé cette semaine qu'il allait vendre une partie de ses projets en Inde afin de se renflouer. Mais le leader mondial de l'énergie renouvelable n'a pas l'intention de se désengager de ce pays qui représente l'un des marchés du solaire les plus prometteurs.
Alors c'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, nous parlons impact économique des changements climatiques avec trois invités, les économistes Éloi Laurent et Lucas Chancel et Laurent Vigneault du groupe d'ingénierie Artelia. On vient d'entendre donc un reportage de Sébastien Farcy en Inde. Cette production de panneaux solaires, Éloi Laurent, c'est ce qu'on appelle l'économie verte?
Oui, c'est l'économie verte et on voit bien que cette économie verte doit se développer au niveau mondial parce qu'on voit que quand on parle de transfert de technologie en fait entre les pays les plus développés et les pays émergents, un transfert de technologie qui n'est pas direct mais indirect se passe par le fait de développer l'économie verte dans les économies développées pour en baisser le prix et faire en sorte que les économies émergentes puissent l'acquérir à un prix beaucoup moins important. Donc on voit bien que les mécanismes de transfert de technologie se font à la fois dans le cadre des négociations climatiques et puis ils transitent aussi par le marché. Donc ça c'est très bien. Sur l'Inde, je crois qu'il faut quand même pas se tromper sur l'évolution actuelle de l'Inde. D'abord, l'Inde, c'est aujourd'hui pas grand-chose en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Quand on dit l'Inde et la Chine, on a tort de mettre les deux ensemble. L'Inde émet grosso modo 6 fois moins de gaz à effet de serre que la Chine. Donc elle est très 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 loin derrière. En revanche, il y a quelque chose de très inquiétant qui se passe en Inde, qui est le fait que le gouvernement actuel a décidé une politique vers le tout charbon qui est une folie totale. C'est-à-dire qu'à l'heure où la Chine est enfin en train d'accepter de renoncer au charbon, d'ailleurs pour des motifs de santé environnementale et de pollution locale, beaucoup plus que de responsabilité globale, mais tant mieux puisqu'on a un co-bénéfice entre les deux, l'Inde est en train d'embrayer sur le fait de se mettre, elle, résolument sur le charbon. Et si vous voulez, les prédictions là, c'est que la consommation de charbon va augmenter. Elle est déjà considérable aujourd'hui en Inde, elle va encore augmenter dans les années à venir, et ça, c'est vraiment une très très mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que si l'Inde embraye sur le charbon au moment où la Chine est en train enfin de faire moins de charbon, au total on va vers quelque chose qui ne sera pas de l'ordre de l'équilibre à somme nulle, mais enfin, disons que ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc d'accord.
Mais
sur
c'est peut-être parce que l'Inde veut copier le modèle chinois, que la Chine s'est développée en partie grâce au charbon, et que l'Inde espère pouvoir faire
oui,
la même
chose. Mais il ne faut pas répéter les erreurs de développement au nom du fait que, si vous voulez, les modèles de développement, Dieu merci, on ne se développe pas aujourd'hui comme il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Donc il faut aussi se développer de façon, précisément, en tirant les leçons du passé. Le charbon aujourd'hui, les particules fines aujourd'hui en Chine, c'est 1,6 million de morts par an. Donc si l'Inde veut se diriger vers un modèle dans lequel elle a des centaines de milliers de morts du fait de la pollution locale, si vous voulez, c'est quand même un choix problématique.
Laurent Vigneault, vous, dans l'industrie, vous la voyez, cette mutation? Passer du charbon au solaire, par exemple?
Alors là, on touche au sujet de l'énergie. Donc l'énergie, il faut savoir que l'émission des gaz à effet de serre, pour résumer très vite pour les auditeurs, c'est grosso modo le bâtiment, la mobilité et les déchets qui génèrent, on va dire, 90% des gaz à effet de serre. Il y a quand même des nouvelles intéressantes, c'est que par exemple sur le bâtiment, aujourd'hui, on sait construire des bâtiments qui ne consomment plus rien. Vous avez la Tour First à la Défense, Artelia fait aujourd'hui l'hôpital de Nantes, ce sont des bâtiments qui ne consomment plus rien. Donc ça, on sait faire. Le gros défi, par contre, qui reste à travailler aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ceux qui existent ne soient pas des passoires énergétiques. Et 90% du territoire est déjà construit, et donc l'ensemble de l'ingénierie aujourd'hui réfléchit, et c'est un défi monstrueux, énorme, à la façon dont on peut rénover le parc existant de logements. Ensuite, je reviendrai peut-être plus tard sur la mobilité et les déchets, et donc en face de cette consommation que l'on arrive de plus en plus quand même à maîtriser, en tout cas sur les projets neufs, ben on a la production. Et donc, tout l'enjeu, je pense, de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est de prendre les choses par les deux bouts en même temps, parce qu'on est pressé par le temps, comme tout le monde sait. Donc, sur la production, effectivement, on est dans tout ce développement des énergies renouvelables. Il y a encore un petit frein, c'est qu'on ne sait pas très bien les stocker. Ça va venir, tout le monde est là-dessus, tous les cerveaux se déchaînent sur ce sujet, je pense que ça sera réglé d'ici 10 ans. À partir du moment où on saura stocker l'énergie renouvelable, bah c'est quand même une énergie qui est gratuite, qui est très abondante, hein, le soleil, et donc je pense que ce développement-là peut être quand même à terme très intéressant, si tant est on arrive quand même à aller suffisamment vite pour régler ce problème du stockage.
Lucas Chancel, vous êtes optimiste comme l'est Laurent Vigneault ? Parce que c'est la première fois dans cette émission qu'on a quelque chose d'un peu optimiste.
Moi, je suis optimiste, mais je pense qu'il y a encore quand même beaucoup de choses à faire, notamment sur la question des subventions que les gouvernements font ou ne font pas aux énergies renouvelables et à toutes ces technologies dites de la transition. Je pense qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, les gouvernements financent davantage les énergies fossiles, les énergies du passé, que l'énergie renouvelable.
C'est-à-dire le charbon, le pétrole.
Le charbon, le pétrole, le kérosène, etc. Donc, les estimations sur le volume global de financement qui vont vers les énergies fossiles, les subventions, vont de 500 milliards d'euros à 5000 milliards d'euros. Et ça, c'est la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE qui nous le dit. Et pour revenir au cas de l'Inde, je pense que c'est important d'ancrer ça dans un contexte national précis. Le gouvernement finance très largement le kérosène. Parce que il se dit que les ménages ont besoin de kérosène, donc il faut le financer. Cependant, les ménages, les individus qui bénéficient le plus de ces subventions aujourd'hui, ce sont les classes aisées des villes qui en mettent dans leur voiture. Donc le fait de supprimer ces subventions étatiques au kérosène, au niveau agrégé, c'est comme une taxe sur les ménages, les classes aisées des villes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème pour les individus qui vivent en milieu rural et qui ont besoin d'un peu de kérosène pour cuisiner ou pour se chauffer. Mais au niveau global, supprimer les subventions aux énergies fossiles dans les pays en développement, eh bien, les études montrent que c'est largement une forme de taxation progressive.
Et politiquement, c'est une mesure, on l'a vu, c'était des décisions qui ont été prises dans certains pays africains, comme le Nigeria, comme d'autres. Ce sont des décisions politiquement difficiles à faire passer.
Alors, c'est évidemment très difficile. Mais il y a des pays où ça s'est bien passé. En Iran, par exemple, le gouvernement a créé des comptes bancaires pour les ménages sur lesquels il y a eu des versements d'argent, ce qui permet, si vous voulez, de minimiser les impacts, minimiser les tensions sociales lors de cette transition d'un système fiscal démodé à un système fiscal adapté au XXIe siècle.
Alors même les pays riches sont affectés par le réchauffement climatique, vous le disiez Laurent Vigneault et Loi Laurent, et l'impact économique n'est pas mince. Aux États-Unis, on a bien sûr tous en tête l'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans il y a 10 ans. Mais avant cela, il y a eu l'ouragan Andrew à Miami, et sur le calendrier des ouragans, il y a définitivement un avant Andrew, comme il y a un avant Katrina, et un après. Andrew, c'est un ouragan de catégorie 5, la plus élevée de l'échelle Saffir-Simpson, et il déferle le 24 août 1992 sur le sud de la Floride. Les dégâts sont considérables. 23 ans plus tard, beaucoup reste à faire, mais la Floride a commencé à tirer les leçons de ces événements climatiques. Un reportage éco-d'ici-éco d'ailleurs, signé Eric Sanson à Miami.
54 morts, 25 000 habitations détruites, plus de 100 000 endommagés par des vents atteignant les 260 km/h. Des dégâts évalués à l'époque à 26 milliards de dollars. À Miami, Andrew a frappé les esprits, confirme Eric Salna de l'Université internationale de Floride.
L'ouragan Andrew a réveillé la Floride, qui est devenue un État leader dans l'étude et la préparation aux conséquences des ouragans.
20 ans après Andrew, un laboratoire connu comme le mur de vent a été inauguré sur le campus de l'Université internationale de Floride. Ces 12 ventilateurs géants permettent de simuler les vents d'un ouragan de force 5, les plus destructeurs au monde. C'est là que sont testés les matériaux et constructions pour les rendre plus résistants. Eric Sandman.
Pour chaque dollar dépensé en travaux de mitigation, vous économisez 4 dollars de dégâts potentiels. Si nous apprenons à mieux construire nos maisons, nos écoles, les futurs ouragans provoqueront beaucoup moins de dégâts.
Selon Salna, le surcoût lié à une meilleure construction n'est que de 10%. Pour Eric Carpenter, le directeur des travaux publics de la ville de Miami Beach, la Floride est aujourd'hui mieux préparée, en tout cas en ce qui concerne la construction neuve.
L'ouragan Andrew était destructeur à cause de ses rafales de vent. Nous avons appris de nombreuses leçons dans la douleur. Le code de la construction a été durci. Entre les vitrages ouragan et la fixation des toits, nous avons appris à mieux construire.
Des mesures dont se félicite Stéphane Burke, même si cet agent immobilier de la compagnie One Source Bees affirme que la clientèle internationale n'est pas inquiète.
Ce n'est pas un problème pour nous dans l'immobilier. De plus en plus de clients continuent à venir du monde entier pour s'installer et ils ne semblent pas inquiets.
Pour le consultant expert en écologie Jim Harper, le marché international n'a pas encore intégré les risques des phénomènes naturels en Floride.
Nous attendons le signal d'alerte de la part des assureurs. Les hypothèques sur les maisons durent en moyenne 30 ans. Et les assurances anti-inondations sont très chères. Si un jour un gros ouragan inonde des régions entières, plus rien ne sera assurable.
L'impact économique potentiel des ouragans et tempêtes tropicales n'est pas limité au secteur immobilier. Le président Obama l'a répété il y a quelques mois lors d'une visite dans le parc national des Everglades.
Toute la Floride du Sud reçoit son eau potable de la région des Everglades et a besoin que ce fragile écosystème soit maintenu. Quant à l'impact économique, le changement climatique menace une industrie touristique de 82 milliards de dollars.
En attendant, certaines villes comme Miami Beach investissent des centaines de millions de dollars dans des pompes destinées à sécher les rues après des inondations.
Alors c'était un reportage d'Éric Sanson en Floride. Éric Sanson qui est traditionnellement correspondant de RFI en Équateur. Éloi Laurent, c'est la situation inverse de celle qu'on voit en Égypte. En Égypte, une population qui se soucie par la force des choses, de cette situation de réchauffement climatique, de changement climatique, et un État qui s'en préoccupe peu. Et là, on a des institutions qui semblent travailler sur cette question, mais un marché de l'immobilier qui continue à prospérer, comme si rien n'allait se passer ou ne se passait.
C'est-à-dire surtout, ce qui se dit, c'est qu'ils ont les moyens de s'adapter. C'est ce qu'on voit, c'est d'un côté un pays pauvre qui a relativement peu de moyens, de l'autre un des États les plus riches dans un des pays les plus riches qui a des moyens absolument considérables et un secteur de l'assurance qui est extrêmement développé avec des gens qui sont capables d'anticiper et de prévoir. Et le contraste est saisissant avec l'ouragan Katrina. Andrew, c'est en effet des dégâts matériels, on peut chiffrer ça en termes de milliards de dollars, de tout ce qu'on voudra, c'est 50 morts. Katrina, c'est 1800 morts. 1800 morts dont 80% sont des Africains-Américains. Katrina, ça a été la révélation à la face des États-Unis de l'inégalité raciale et de l'inégalité sociale dans les contextes du choc écologique. Donc si vous voulez, c'est Katrina qui a fait rentrer les États-Unis dans l'ère du changement climatique beaucoup plus qu'Andrew. La Floride, de toute façon, c'est de toutes les îles en Floride, etc., de toute façon, ils sont en un sens d'abord habitués, donc ils sont adaptés en fait depuis très longtemps à toutes ces questions. Et d'autre part, voilà, il y a un côté finalement population, une fois de plus, extrêmement aisée. À Katrina, on a eu les quartiers les plus pauvres qui ont été les plus inondés, on a eu toute la question de savoir quand les secours sont intervenus, avec quel délai ils sont intervenus, et il y a des différences absolument frappantes entre Andrew et Katrina de ce point de vue-là, entre le sort qu'on a réservé à la Louisiane, à des États les plus pauvres, et une ville qui était à l'époque majoritairement africaine-américaine, elle ne l'est plus, la Nouvelle-Orléans est une ville beaucoup plus blanche aujourd'hui parce que les Africains-américains sont partis, tout simplement. Donc il y a vraiment, enfin, Andrew, ça a été, c'est finalement la question de l'assurance, de l'immobilier, enfin, des grandeurs économiques et une fois de plus de la croissance. Katrina, c'est la question de la justice sociale, de l'inégalité sociale. Et c'est ça qui est absolument clé. Et en effet, la question est de savoir si on va entrer dans le monde de Katrina, c'est-à-dire si on va laisser les pauvres et les plus vulnérables être inondés, ne pas pouvoir s'échapper d'une ville parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport pour pouvoir s'en échapper, et ensuite ne pas être secourus pendant 2 semaines par un État qui a fait des choix sur une base raciale. C'est ça la question véritable.
C'est ça la question véritable, Lucas Chauffel ?
C'est absolument ça la question véritable, et ça nous invite aussi à bien penser comment on fait ces politiques d'adaptation. C'est-à-dire, est-ce qu'on construit une digue pour protéger une population défavorisée qui est proche d'un littoral, ou est-ce qu'on se pose la question de pourquoi est-ce que certaines populations sont davantage poussées à aller dans certains lieux qui sont plus enclins à subir les conséquences du changement climatique que d'autres ? Et c'est pas le même type de réponse.
Laurent Vigneault, vous partagez ce point de vue ?
Oui. Ingénieur ? Oui, tout à fait. Alors, bon, il y avait quelque chose d'intéressant dans le reportage aussi, c'est qu'ils disaient qu'ils arrivaient de plus en plus à simuler et à tester, en fait, les ouragans. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que toutes les villes impactées par ces ouragans n'existaient pas il y a 2 siècles. Donc ça pose quand même un sujet majeur que nous on développe beaucoup aujourd'hui dans nos plans climat et dans nos projets d'urbanisme, c'est de savoir où s'implantent les gens. Et on sait très bien aujourd'hui, partout dans le monde, quand est-ce que quelqu'un s'implante dans une zone à risque. Et à partir de ce moment-là, si on l'autorise à s'implanter, si les gens ou si la force démographique fait que c'est inexorable, on entendait dans le reportage que le surcoût c'était de l'ordre de 10% pour arriver à faire des constructions qui s'adaptent. Donc c'est ça qui est très très compliqué aujourd'hui dans la planification des territoires urbains, c'est de prévoir et puis ensuite de s'adapter.
Eh bien c'est le mot de la fin de cette émission Éco d'ici, Éco d'ailleurs, qui était réalisée et mise en onde par Nicolas Benita. Merci à vous trois, Lucas Chancel, Laurent Vigneault et Éloi Laurent d'y avoir participé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle aventure économique.
D'ici, Éco d'ailleurs, sur RFI.